trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 15 octobre.
Même le mardi aujourd'hui.
Le mardi d'ailleurs, oui. 15 octobre 2024, ça commence bien. Et il est 14 heures passées de quelques secondes à notre horloge. Et oui, vous êtes bien et même très bien sur O2 Radio. Bienvenue dans Ciné 100, l'émission de tous les cinémas. Le 15 octobre est un jour particulier car il se trouve pile entre le 14 et le 16.
Ah, d'accord.
On le sait tous. Ce qu'on sait moins, c'est que le 15 octobre 1905, Claude Debussy créa La mer que le 15 octobre 1924 parut, le manifeste du surréaliste d'André Breton, et que le 15 octobre 1940 eut lieu à New York la première mondiale du film Le Dictateur de Charlie Chaplin. Nous allons essayer d'être à la hauteur. Nous, c'est-à-dire moi-même et Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Annelise.
Allez bien ?
Oui, je vais très bien, mais où est donc notre camarade ?
Eh bien, Jean-Jacques est en train de se balader dans les Pyrénées.
Oh, le cuistre !
Oh, n'est-ce pas ?
Pourvu qu'il nous rapporte du fromage.
Eh bien, c'est la moindre des choses. Bref. Alors, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à un thème que vous allez nous présenter.
Absolument, je vais essayer de pas fouiller autant que vous. Alors, le rêve nous mène dans l'avenir, puisqu'il nous montre nos désirs réalisés. Mais cet avenir présent pour le rêveur est modelé par le désir indestructible à l'image du passé. Bon, voilà ce que pensait le bon docteur Freud des rêves en 1900. L'enfant rêve, la femme rêve, l'homme rêve. Bref, nous rêvons tous à des degrés divers, sous des formes diverses. Nos traumatismes sont exacerbés, nos angoisses décuplées et nos fantasmes se révèlent à nous-mêmes pendant notre sommeil. Le rêve est un fait vécu qui se prolonge dans le sommeil. C'est pourquoi il n'est jamais achevé. Demain existera toujours, il y aura toujours de la place pour augmenter ce rêve et le modifier. Mais alors, dans la théorie, c'est bien beau de parler des rêves, mais nous sommes dans une émission de cinéma. Alors quel rapport celui-ci entretient-il avec le rêve ? On pourrait dire que le cinéma est un rêve éveillé, partagé par un certain nombre de personnes au même moment et au même endroit. Et ils sont nombreux, les films qui, sans traiter du rêve comme substance principale, en font un élément important du scénario. Alors tiens, nous avons dans le désordre Rêve d'Akira Kurosawa, Le magicien d'Oz de Victor Fleming, dont je vous rappelle que nous avons parlé la saison dernière, et Le chien andalou, entre autres, de Luis Buñuel et Salvador Dali. Et au-delà des rêves des frères Ward. À cette liste, on peut ajouter les films dont nous allons parler durant cette heure, mais aussi tant d'autres. On peut admettre que le cinéma est une vision onirique d'un événement, d'une histoire, d'un personnage. Allez, attachez vos ceintures, fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans le rêve absolu. Vous ne contrôlez rien, nous nous occupons de tout. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le rêve » et il commence maintenant.
S'il y a un personnage qui a nourri les rêves, les fantasmes, voire les psychismes des réalisateurs, c'est le Hamlet de Shakespeare.
Oui.
Dès la première mouture, en 1900, avec Sarah Bernhardt en prince du Danemark, à The Northman, libre adaptation sortie il y a 2 ans avec Nicole Kidman et Ethan Hawke, plus d'une trentaine de versions ont été tournées.
Bah tiens, à propos de Sarah Bernhardt,
oui.
Dès le XVIIIe siècle, Hamlet a régulièrement été interprété par une actrice, en Angleterre comme en France. Voilà. Bon, au XXe siècle, un certain nombre d'acteurs ont tranché avec la vision de la fragilité et de l'indécision d'Hamlet. Tiens, dès 1964, Richard Burton livrait une interprétation où il montrait le prince du Danemark comme un fauve en cage, puissant, pervers, moderne, en pull et pantalon noir dans une version signée John Gielgud. Mais la version de référence demeure celle de Laurence Olivier en 1948.
Pour rester dans la veine parodique un peu, Dr. Jerry et Mr. Love de Jerry Lewis en 63 nous propose un directeur d'université ridiculisé en interprétant Hamlet face à Love qui le fait monter sur la table, l'éclaire avec le lustre de la pièce, lui fait porter un parapluie en guise d'épée, un chapeau cassé pour la couronne et qui le secoue jusqu'à lui faire baisser son pantalon.
Oh, le cuistre. Plus révérencieux, citons « To be or not to be, Dale Sloubich » en 41, où un jeune lieutenant aviateur quitte chaque soir sa place pour filer dans la loge de la belle Maria dès que Joseph, le mari, attaque le grand monologue d'Hamlet, « To be or not to be ».
Dans la poursuite infernale de John Ford en 46, Doc termine le monologue d'Hamlet à la place d'un acteur à la mémoire défaillante, devant des cow-boys hostiles. D'autres réalisateurs se sont frottés plus ou moins librement au mythe shakespearien, entre autres Corice Mackie et Zeffirelli.
C'est son frère, l'autre.
Oui, tout à fait.
Dans la catégorie Shakespeare pour les jeunes, nous avons Roi Lion.
Tout à fait.
Bien sûr, oui. 43e long métrage d'animation des studios Disney, sorti en 94, inspiré en grande partie de l'histoire d'Hamlet. Où Iago est le vilain lion. C'est Scar, non?
C'est Scar le méchant.
Ouais, c'est ça. Et pour finir, on se doit de citer la version de Kenneth Branagh en 96, avec sa distribution de stars. Julie Christie, Derek Jacobi, Kate Winslet, Robin Williams, Jack Lemmon, Gerard Depardieu et Charlton Heston.
Allez, en 84, Julien Clerc interprétait « To be or not to be Bop » sur les paroles de David McNeil. Avouons-le, ce n'est pas ce que le duo a fait de mieux.
En nous attendant.
Un film qui plonge le spectateur au cœur d'une exploration audacieuse du rêve et de la réalité, tel est Inception, réalisé par Christopher Nolan. Ce film, emblématique sorti en 2010, est un chef-d'œuvre cinématographique qui nous entraîne dans un univers complexe où les frontières entre rêve et réalité s'estompent.
Au cœur de l'intrigue, Dom Cobb, interprété par Leonardo DiCaprio, est un extracteur, un voleur qui pénètre dans les rêves des gens pour en dérober les secrets. Ce concept fascinant de l'Inception, qui signifie origine, où l'idée d'implanter une pensée dans l'esprit d'une personne à travers ses rêves, ouvre la porte à une multitude de réflexions sur la nature de notre esprit. Le rêve devient ainsi un terrain de jeu où les désirs, les peurs et les souvenirs s'entrelacent.
Le film joue habilement avec le concept de la réalité subjective. Les séquences de rêves sont visuellement époustouflantes et richement élaborées. Des paysages qui se plient et se déforment comme les rues de Paris qui se replient sur elles-mêmes créent un sentiment de vertige, illustrant à quel point les rêves peuvent déformer notre perception. Nolan nous invite à questionner ce qui est réel. Sommes-nous vraiment conscients lorsque nous rêvons ou sommes-nous piégés dans un monde illusoire ? Extrait.
Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve et le sujet y met tout son subconscient.
Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité ?
C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai ? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas ? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action.
C'est juste, oui.
On est arrivé comment ici ?
Eh bien, on sort à peine de...
Comment êtes-vous arrivé ici ? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment ?
On est en train de rêver ?
Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagée. Gardez votre calme.
Oui.
L'une des forces du film réside dans sa structure narrative en couches où chaque niveau de rêve a ses propres règles et dangers. Cela reflète la complexité de l'esprit humain et comment les différentes couches de notre conscience peuvent interagir.
Alors Cobb, en quête de rédemption, navigue entre ses propres souvenirs et les projections de son subconscient. Sa lutte contre l'ombre de sa femme, interprétée par Marion Cotillard, qui apparaît dans ses rêves, symbolise la lutte pour accepter son passé. Un combat intérieur souligne que les rêves ne sont pas seulement des échappatoires, mais aussi des lieux de confrontation avec nos démons.
L'idée de la toupie, symbole de la frontière entre rêve et réalité, résonne tout au long du film. À la fin, Nolan nous laisse dans l'incertitude. La toupie tourne-t-elle éternellement ou finit-elle par s'arrêter ? Ce flou délibéré nous pousse à réfléchir à nos propres perceptions de la réalité et à la façon dont nous définissons nos vérités.
Alors, une petite anecdote, je sais que vous aimez bien ça, Lise.
Oui,
alors, depuis sa sortie, Inception divise le public. Rêve ou réalité ? Sur les internets, les publications de folles théories ont proliféré au point de ne plus s'y retrouver. Leonardo DiCaprio a lui-même avoué ne pas avoir compris la fin du film.
Bravo.
Quand même. On lui a pas expliqué.
Allez, comme souvent, Leonardo DiCaprio est exceptionnel. Son personnage nous entraîne avec lui dans sa vie. On retrouve aussi Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levy et Tom Hardy. La musique de Hans Zimmer, avec ses motifs récurrents et sa tension croissante, intensifie cette exploration, plongeant le spectateur dans une expérience immersive qui fait écho au terme de la perte et du regret. Non, je ne regrette rien.
Ah, non,
chanté par Edith Piaf, apparaît à plusieurs reprises dans le film.
Non, rien de rien. Non, je ne c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Oui, en même temps, c'est peut-être dingue, mais vous n'êtes pas obligé de les regarder trois, quatre fois dans l'année, ma bonne
oui,
dame.
Oui, mais c'est vrai, c'est dingue. C'est quand même dingue.
Alors, vous l'avez reconnu, ce petit jingle qui vous annonce tous les mardis les films que vous allez pouvoir voir à la télévision, assis sur votre canapé. Et on parle bien de films, bien sûr. Alors, mardi 15 octobre, Annelise, qu'avez-vous?
Mon anniversaire. Non.
C'est pas aujourd'hui.
Blood Diamond.
Mais je suis désolé. Bon anniversaire, mais... Annelise. Joyeux anniversaire. Allez, tout le monde avec moi.
Ça y est, on peut continuer.
On peut continuer.
Blood Diamond. Sur Ciné plus Frisson, on parlait de Leonardo DiCaprio à 22h26 d'Edward Zwick avec sur le sang, on peut clairement dire ça, des diamants en fait, de l'extrait des diamants en Afrique.
C'est un film édifiant sur un homme qui est acheteur de diamants en Afrique et qui se trouve pris dans un engrenage absolument monstrueux. C'est un film extraordinaire.
Voilà.
Parfait, très bien. J'avais pas vu. Alors moi, j'en ai un sur Canal.
Oui.
À 21h, un film de Cédric Kahn. Bon, c'est une bluette, hein, c'est une petite comédie. Enfin, comédie amère quand même. Ça s'appelle Making Of, avec Denis Podalydev, Jonathan Cohen, Stéphane Crépon et Souleya Yacoub. Bon, c'est Simon, qui est un réalisateur aguerri, qui débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur et des acteurs incontrôlables et les techniciens à cran, il est vite dépassé par des événements. Paf ! Alors là, vous imaginez qu'il va confier un rôle important à un figurant.
Ah bah oui !
La réalisation du making-of, justement.
Demain, autrement ?
Ah bah demain, j'en ai un magnifique, oui.
Oui, lequel ?
Arte, 20h55.
On a le même.
Nanni Moretti ?
Ben oui, bien sûr.
Et ça s'appelle comment ?
Habemus Papam.
Habemus Papam, absolument. C'est tout à fait ça. Nous avons un pape,
oui,
ça veut
tout
dire.
À fait.
Et c'est... avec l'incroyable, le regretté Michel Piccoli.
Tout à fait.
Qui était, voilà. Bon, vous connaissez le film ou on vous le raconte ?
Bon, ils connaissent.
Ils connaissent. Ouais,
mais de toute façon, c'est à voir. C'est vrai que c'est un très beau
mercredi,
film.
Mercredi, vous lâchez le foot et puis vous allez voir ça.
Jeudi,
j'en ai un, oui.
Moi aussi, j'en ai deux. Alors, j'en aurai plus, mais jeudi, dites-nous.
Chérie 25, 21h05, 21h05, un film de Brad Furman avec Matthew McConaughey et Ryan Phillippe. La Défense Lincoln.
Ah ben oui.
Très chouette roman déjà à la base.
Ben oui, tout à fait.
Oui, parce que bon, j'aime beaucoup Michael Connelly déjà. Donc Michael Haller est un avocat à Los Angeles. Cet homme habile est prêt à tout pour innocenter les criminels de bas étage qu'il défend avec beaucoup de conviction. Mais il est toujours entre deux bureaux, donc il travaille le plus souvent à l'arrière de sa voiture. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle La Défense Lincoln, parce qu'il est dans une Lincoln. Voilà.
Moi, je vais sur W9. C'est devenu quand même un film un peu culte, hein, Pretty Woman. Hein, on peut Gary dire ça Marshall, comme ça. Julia Roberts. Ouais. Bon, c'est une comédie romantique, mais qui est assez ça chouette. Son ça, ce sont ça charme, charme et ça sûr. Se laisse bien regarder.
C'est le charme des années 60, en fait, c'est bien.
Bon,
c'est,
60... On...
85
Ouais, ouais, à peu près, ouais. Pretty Woman. Sur ces stars, autrement, 21h10, si vous voulez vous prendre un petit peu plus la tête, un film de Bong Joon-ho, Snowpiercer, avec Chris Evans, sur, en fait, le petit pitch, c'est un train qui ne sait pas du tout, qui ne s'arrête plus du tout, qui traverse tout le monde sans s'arrêter, et à l'intérieur, bien, la société s'est reconstituée avec à l'arrière du train les pauvres et à l'avant du train, eh bien, on ne sait pas, un conducteur, et une révolte gronde à l'arrière du train.
Ah, d'accord.
Et on va remonter tout le long du film. Le film va remonter en même temps que la révolte gagne tout le train.
D'accord.
Voilà. Très, très grand film, oui, très beau film. Voilà.
Oui, c'est pas une catastrophe auquel ça pourrait faire penser quand même.
Eh ben non, c'est pas, non, pas du tout. D'accord. D'ailleurs, une série est sortie qui est beaucoup moins bien d'ailleurs.
Voilà. D'accord.
Vendredi ?
Alors vendredi, j'en ai un, oui, j'en ai un.
Oui.
Sur France 5, figurez-vous.
Eh bien, dites donc.
Eh bien, voyez-vous ça, à 21h05.
Vous avez quoi ?
Marquise de Vera Belmont.
Ah oui.
Avec Sophie Marceau, Bernard Giraudot, Lambert Wilson, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte. Alors figurez-vous que c'est une jeune danseuse qui est remarquée par Molière sur un marché lyonnais. Pour échapper à une vie de misère, Marquise épouse Gros René, comédien dans la troupe de Molière. Excellente danseuse, la jeune femme voudrait devenir actrice, mais après un premier essai désastreux, Molière refuse de lui offrir une seconde chance. Voilà.
Voilà.
Et donc elle deviendra la maîtresse de Racine, qui écrira pour elle Andromaque.
Et oui. Moi, j'ai pour un peu moins, j'ai sur Gulli, La famille Adams,
oui.
Le premier, avec Angelica Houston et Raoul Julian.
Et la main.
Et la main. Voilà. Et donc, c'est l'histoire hein, de la famille Adams. On va dire. Voilà,
famille
c'est...
qui n'est pas très, très belle à voir, mais.
Eh bien, en ces temps d'Halloween, elle a des valeurs, et puis elle, c'est une famille, en fin de compte, qui est peut-être. Différente, mais qui est tout à fait humaine.
Absolument, on est bien d'accord là-dessus.
Samedi, vous en avez ?
Samedi, moi j'avais noté rien, sauf peut-être,
moi,
alors vraiment peut-être,
rien.
Sur France 4, à 22h35, La Passion Van Gogh, qui est un film d'animation, alors ça, ça va vous plaire, un film d'animation de Dorota Kobiela et de Hugh Welshman. Voilà, bon, c'est...
bon,
c'est
super Pourquoi ça devait me plaire ?
Parce que c'est un dessin animé.
Ah oui, mais je n'aime pas tous les dessins animés.
Bah bon, d'accord.
Allez,
bon.
Dimanche.
Dimanche.
Eh bien, moi, j'ai rien.
Moi, bah, j'en ai un.
Bah alors, dites.
Arte, 21h, oui. Hugo Cabret de Martin Scorsese.
Ah bah, je suis passée à côté.
Ah
bah donc.
Voilà, et eh bah voilà, et eh bah voilà. Alors, dans le Paris des années 1930, Hugo Cabret, un orphelin de 12 ans, vit dans une gare. Son père, un horloger talentueux, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé en forme de cœur qui pourrait le faire fonctionner. Hugo est convaincu que le robot dont la vocation est d'écrire renferme un utile message de son père. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n'est que le début de l'aventure. Cœur avec les doigts.
Oui. Lundi ?
Lundi, oui, j'ai.
Mais moi, j'en ai un aussi.
Lequel ?
Baiser volé de Truffaut.
De Truffaut à 20h55.
À 20h55. Oui. Autant vous dire que je ne sais plus sur quel
Arte.
Arte. Voilà, c'est ça.
C'est sur Arte. Je l'avais aussi.
Vous l'aviez
je
voilà.
l'avais noté, oui.
Moi, j'ai marqué tout, sauf... la chaîne.
La chaîne, oui.
Heureusement que vous êtes là.
Oh bah, ça. Et c'est moi, j'en ai un, si vous voulez, sur France 3. On parlait de Christopher Nolan tout à l'heure.
Oui.
Eh ben, j'ai Dunkerque.
Ah bah oui, tout à fait.
Hein, bon, ça dure un peu longtemps, mais bon, voilà, c'est quand même l'histoire de 400 000 soldats britanniques, canadiens, les Français et Belges qui se retrouvent encerclés par la troupe allemande dans la poche de Dunkerque. Donc voilà, c'est en fait un peu une parabole sur l'utilité ou pas de la guerre.
Bravo.
Voilà, voilà,
et
la
bien
semaine.
Alors
hein, pas mal, non ? Figurez-vous qu'en 1954... Une des patientes de l'hôpital psychiatrique d'Ashelsfield, Dashcliffe, située sur l'île de Shutter Island au large de Boston, a disparu sans laisser de traces. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Howell sont envoyés sur place pour mener l'enquête. Mais l'affaire se révèle très vite mystérieuse pour les deux hommes.
Voilà pour le pitch du film de Martin Scorsese. Shutter Island suit une succession de scènes dans lesquelles Teddy Daniels se trouve confronté à des visions oniriques. Une femme semblant lui faire « chut, d'un doigt devant la bouche, ce qui pourrait être interprété comme des souvenirs. Mais comment le Marshall Daniels pourrait avoir des souvenirs d'un lieu où il n'est jamais venu ?
Eh oui, ben c'est là la magie du scénario de Laeta Kalogoudis, tiré du roman de Denis Lehan. Celui-ci, c'est un vrai spécialiste des thrillers psychologiques. Ses romans mettent nos nerfs à rude épreuve et leur adaptation en font même. Rappelons-nous, par exemple, Mr. Craver ou Gone Baby Gone. Le vrai tour de force de Scorsese est de nous entraîner dans une quête sans fin. Mais que fichtre vient faire Daniels sur cette île ? Ah, il faut bien avoir les deux yeux ouverts en même temps pour ne pas perdre une miette de ce que nous offre le cinéaste américain. Est-ce un rêve éveillé ou un cauchemar ? Alors, totalement fidèle au roman, le cinéaste et sa scénariste jouent avec nos nerfs, comme Léane le joue, dans le livre. Le personnage de Daniel se révèle à lui-même à mesure que l'action se déroule. Il mène son enquête sur une disparue, mais également sur lui-même. Bande annonce.
Faites-moi un topo sur cette institution.
Je sais seulement que c'est un hôpital psychiatrique.
Pour fous dangereux.
Nous ne prenons que les patients les plus dangereux, les plus gravement atteints. Ceux dont aucun autre hôpital ne peut s'occuper. Je vous informe que vous devez nous remettre vos armes.
Mais nous sommes Marshall des États-Unis.
Pendant votre séjour, vous suivrez le protocole. Messieurs, bienvenue à Shutter Island.
Marshall Daniels ?
Docteur. Donc, cette prisonnière, Rachel Solando, s'est enfuie en séquence ces dernières 24 heures.
Elle est considérée comme étant dangereuse ?
On peut dire ça.
On est à 18 km de la côte et l'eau est glacée.
On ignore comment elle est sortie de sa chambre.
On est repassé à minuit pendant la ronde, elle était plus là.
Elle s'est comme volatilisée à travers la muraille.
Beaucoup de gens connaissent cet endroit, mais personne ne veut en parler, vous voyez ? C'est à croire qu'ils ont peur.
Tu comprends pas, t'es un rat dans un labyrinthe.
Qui est au courant ? Tout le monde. Les infirmières ? Le personnel ? C'est impossible ! Tout le monde. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas vous laisser partir.
Où allez-vous comme ça ?
Vous comprendrez qu'il est compliqué de parler du film sans aborder son interprète majeur, à savoir Leonardo DiCaprio. Alors, voilà, on va pas y aller par quatre chemins, il est formidable. Il est investi dans cette traque, déboussolé par ses découvertes, indigné par le traitement que font subir les médecins aux patients, mais pour finalement chercher lui-même l'apaisement dans ce qu'il a d'ultime.
Au casting, on retrouve Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow.
Max von Sydow, même, on peut dire.
Oui,
c'est un Allemand.
Michelle Williams, ainsi que Ted Levine et John Carroll Lynch, qui avaient tous deux joué des serial killers dans Le Seigneur, Le Silence des Agneaux et Zodiac. Je vais y arriver.
Parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est pas le même film. On est d'accord. Hein. Alors, Shutter Island est un grand film. Je vais rajouter un grand par rapport à mon conducteur. La sortie du film était initialement prévue en octobre 2009, figurez-vous, mais il a été repoussé au 24 février 2010 afin d'avoir un créneau plus porteur au box-office, l'année 2009 étant marquée par la récession. Le report mit de facto le long métrage hors course pour la saison des Oscars et des récompenses cinématographiques où il était envisagé comme un candidat légitime.
Eh oui. Allez, c'est pour la musique, Martin Scorsese n'a pas souhaité de bande originale. Non. Néanmoins, il a chargé son ami Robbie Robertson, ex-leader du band, d'assembler différents morceaux préexistants. On retrouve donc Tomorrow Night de et par Lonnie Johnson.
Just another lovely song. It's in my heart to linger on. You're so tender. Your heart is beating fast, and you willingly surrender. Tell me, darling, will it last tomorrow night? Will you be with me when the moon? Lovely things you said to life. Tomorrow night, will you remember what you said tonight? Tomorrow night, will all the thrills be gone? Tomorrow. Another memory, or just another lovely song that's in my heart to linger on. Your lips are so tender, your heart is beating fast, and you willingly surrender. Tell me, darling, will it last tomorrow night? Will you be with me when the moon is bright? Tomorrow night, will you say those lovely things you say tonight?
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Nous sommes sur 91.3 O2 Radio, bien entendu.
Lewis Carroll a marqué le monde avec les aventures d'Alice au pays des merveilles. Et le cinéma ne tarda pas à s'emparer de l'histoire. C'est précisément en 1903 que naquit sur pellicule la première d'une longue série de visions variées du roman. Dans ce petit film d'époque d'une durée de 12 minutes environ, le rôle principal était tenu par May Clark, âgée de 18 ans.
De nos jours, oubliée, une version de 1933 réalisée par Norman MacLeod réunissait tout le gratin des acteurs des années 1930 à la Paramount, comme Gary Grant, Gary Cooper, W.C. Fields. Mais cette version fut pourtant un échec à l'époque. Ben, il faut dire que ces stars étaient méconnaissables sous des tonnes de maquillage et dans des costumes loufoques. Alors, c'est la jeune Charlotte Henry, 15 ans, qui hérita du rôle titre dans une composition assez proche de l'image renvoyée par les illustrations originales et qui reproduisait très fidèlement le texte, l'esprit et l'esthétique du roman.
En 2010, Tim Burton apporta sa contribution avec un film oscarisé mêlant prise de vue réelle et animation. Petit extrait, bande-annonce.
Il est un lieu, à nul autre semblable. Certains prétendent que pour y survivre, il faut être aussi fou qu'un chapelier. Ce que par bonheur, je suis Alice. C'est toi.
Alice ?
Alice !
La fameuse Alice ?
Tu es Alice, ça ne fait aucun doute, je te reconnaîtrai entre mille.
Vous êtes en retard pour le thé !
Alice est revenue au pays des merveilles.
Depuis que tu es partie, l'impitoyable Reine Rouge a pris le pouvoir.
Retrouvez-la !
Aide-toi à rétablir la justice.
On lui coupe la tête !
Où est mon petit cochon ?
J'aime poser mes pieds douloureux sur son ventre chaud. Ça suffit. Nous avons notre championne.
Accroche-toi bien. Je crois que c'est impossible.
Alice a également fait l'objet d'adaptations intégrales en films d'animation, une soviétique en 81, une deuxième tchèque en 88 et une américano-japonaise en 85, mais c'est la version des studios Walt Disney en 51 qui remporte le gros lot.
Et pourtant, le monde de Lewis Carroll proposant un imaginaire très spécifique, il faudra plusieurs années et de nombreuses tentatives à Walt Disney pour trouver le juste équilibre entre la fidélité au matériel original et la liberté propre à toute création. Alors, côté scénario, de nombreuses pistes furent explorées. C'est ainsi que l'auteur de science-fiction Aldous Huxley fut consulté et proposa une approche faisant de Lewis Carroll son personnage principal. Bon, le scénario choisi par Walt Disney sera finalement plus proche du roman original en se focalisant sur les personnages et les scènes les plus iconiques de l'histoire.
Alors, 13e long-métrage des studios Disney, Alice au pays des merveilles, est l'opus le plus atypique des films d'animation produits par la firme de Mickey du vivant de Walt Disney. Ce dernier vouait en effet un véritable culte à l'œuvre de Lewis Carroll et tenait beaucoup à cette adaptation très controversée. La sortie du film se fit sous les colibets de la critique qui ne trouva pas, à l'époque, de mots assez durs pour la dénoncer. Le public se laissa d'ailleurs convaincre et bouda les salles.
Alors, inutile de dire que la déception fut immense pour Walt Disney.
Oui.
Le film sera remisé pour une durée indéterminée, mais il redevint disponible à la fin des années 60 et connut alors un vrai succès dans le circuit universitaire, emballé par son côté loufoque et surréaliste. En phase avec la culture hippie naissante, il devint l'emblème de toute une génération.
Allez, côté musique, en 67, Eddie Mitchell donnait sa version d'Alice.
Oh, magnifique.
Hayao Miyazaki, sorti en 2001, on retrouve le rêve comme élément moteur. Les esprits, les fantômes viennent comme une toile entre la réalité et l'imaginaire. Chihiro est une jeune fille de 10 ans qui se retrouve piégée dans un univers parallèle alors que ses parents se transforment en cochons.
Ah,
Elle va devoir apprendre à connaître ce nouveau monde pour pouvoir délivrer ses parents et ainsi rentrer chez elle.
Alors, ce voyage initiatique, à la fois onirique et symbolique, soulève des questions profondes sur l'identité, la mémoire et le passage à l'âge adulte. Bande-annonce.
Personne ne doit venir ici. Va-t'en vite avant que la nuit tombe. Entre. Ici, les humains n'ont jamais été les bienvenus. Jamais tu ne reverras le monde d'autrefois.
Il y a un village, ça ressemble à la mer.
Dès son arrivée dans ce monde étrange, Chihiro est confronté à des situations qui semblent issues d'un rêve. Les paysages sont luxuriants, les personnages hauts en couleur et les événements s'enchaînent de manière presque irrationnelle. Ce rêve éveillé révèle ses peurs et ses désirs tout en évoquant la fragilité de l'enfance. Chihiro doit naviguer dans cet univers souvent absurde, mais d'une richesse visuelle et émotionnelle incroyable.
Le rêve dans Chihiro n'est pas simplement un espace d'évasion, il représente aussi un lieu de transformation. À travers ses épreuves, Chihiro passe d'une petite fille timide à une héroïne déterminée. Sa quête pour retrouver ses parents et retourner dans le monde réel reflète le parcours d'un enfant vers l'âge adulte, où chaque rencontre, qu'il s'agisse de l'esprit de la rivière Haku ou de la sorcière Yubaba, constitue une étape cruciale dans son développement.
Le voyage de Chihiro est bien plus qu'un simple film d'animation. C'est une exploration du rêve, un reflet des luttes et des triomphes de la vie où chaque image et chaque son invite le spectateur à s'interroger sur son propre chemin. À travers cette œuvre, Miyazaki nous rappelle que même dans les mondes les plus étranges, le rêve peut être un puissant moteur de transformation et de découverte de soi.
Ce long métrage est le deuxième plus grand succès de tous les temps au box-office japonais, derrière la série Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, le film... et le film Le Train de l'Infini. Avec un peu plus de 2 milliards de yens de budget, il en reportera 29 milliards. Témoignage de son universalité en 2002, le film a reçu le prix du public au Festival de Sundance et l'Ours d'Or au Festival de Berlin, ex aequo avec le drame de Paul Greengrass, Bloody Sunday. Auparavant, aucun film d'animation n'avait été couronné dans la capitale allemande.
Eh bien, musique de Joe Hisaishi,
c'est
comme ça à peu près, hein, Hisaishi, qui accompagne magnifiquement le récit, renforce l'atmosphère onirique. Les mélodies à la fois nostalgiques et éthérées plongent le spectateur dans l'émotion pure, soulignant le voyage intérieur de Chihiro. Quant à la musique du générique de fin, Rêvons toujours les mêmes rêves aimés, elle est composée et interprétée par Yumi Kimura.
Ah, tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Allez, vous l'avez reconnu, le petit oui. Jingle.
On va faire connu.
Ah oui, hein, qui va, bah, eh bien, on va vous parler des sorties qui, des sorties au cinéma
oui.
qui arrivent en salle demain.
Oui, des films qui sortent demain, donc.
Oui, voilà,
des sorties,
c'est
des
ça.
Sorties de demain.
Des sorties au cinéma qui arrivent dans les salles demain, c'était
demain,
clair.
Demain, voilà,
demain,
c'est ça.
Matin.
Mercredi.
Demain, 9h. Demain. Dans les salles.
Ah oui, le 16 voilà. octobre.
Oui, tout à fait,
et
le lendemain.
Vous aurez 48 ans plus un jour.
Oui, alors on va y aller tranquille, hein. 47. Alors, au lieu de dire des bêtises, oui, qu'avons-nous
bon. Alors moi, j'ai un film dont absolument personne n'a entendu parler.
C'est bien. Eh bien, allons-y alors.
Alors, si je vous dis Malik Frika.
Oui.
Si je vous dis Mallory Vanek.
Oui.
Si je vous dis François Civil.
Oui.
Et si je vous dis Alain Exarchopoulos.
Tout à fait.
Et si je vous dis Gilles Lelouch, vous avez
ah,
L'Amour Ouf, bien sûr.
Ah, oui.
Qui est un film infiniment moins stupide qu'il ne semble l'être, car c'est en fait un va-et-vient entre deux générations de personnages qui interprètent les mêmes personnages entre l'adolescence et l'âge adulte. Voilà, c'est Jackie et Clotaire qui grandissent sur les bancs du lycée et les docks du port, elle étudie et lui, ils traînent un peu. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La
D'accord.
vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là se comblent les deux ventricules du même cœur. Ils sont inséparables et indécrottablement aimant l'un de l'autre. Et ouais, le couple Exarchopoulos-Civil fonctionne très bien, comme le couple Mallory Vanek et Malik Frika, pour leur premier rôle, fonctionne très très bien aussi.
D'accord.
Chouette film.
Chouette film.
Ouais, ouais, je pense, oui. Ouais.
Eh bien, moi, j'ai Barbès Little Algérie de Hassan Guérard avec Sofiane Zermani, Khalil Garbia et Khaled Benassa. Malek, la quarantaine, célibataire, vient d'emménager à Montmartre et accueille bientôt chez lui son neveu, Riyad, fraîchement arrivé d'Algérie. Ensemble, ils découvrent Barbès, le quartier de la communauté algérienne très vivant malgré la crise sanitaire en cours. Ses rencontres avec les figures locales vont permettre à Malek de retrouver une part de lui qu'il avait enfouie, de renouer avec ses origines et de commencer à faire le deuil de ses disparus. Ça a l'air d'être un très beau
oui,
film.
J'en ai
vraiment...
parlé ce matin sur Inter.
Ah ben voilà. Sur, en fait, le quartier Barbès, qui est un quartier assez... Tout le monde le décrit, voilà, avec ses...
C'est le petit Alger. Hein.
Et, ouais, et c'est vraiment... quand on voit le film, on a l'impression d'être à Barbès et avec toute l'humanité qu'il y a, toute la chaleur qu'il y a dans ce quartier. Et c'est vraiment un chouette film. Et les acteurs, Sofiane Zermani et Khalid Garbia, sont assez extraordinaires, en tout cas. Voilà, à voir, je pense,
pour
connaître un petit quartier comme ça de Paris.
Mais un peu comme on pourrait faire un film sur le cours Victor Hugo, qui est quelque part
oui.
un petit Barbès également, toute proportion gardée. Moi, j'en ai un autre petit, si vous
Alors,
avez encore le temps.
Rapidement.
Rapido. J'ai Nora de Taovi Alzadi avec Yacoub Alfrahan, Maria Bahraoui et Axia Kay. C'est en Arabie Saoudite dans les années 90. Le nouvel instituteur Nader arrive dans un village isolé. Il rencontre Nora, une jeune femme en quête de liberté. Leur relation secrète, nourrie par l'art et la beauté, va libérer des forces créatrices qui animent ces deux âmes sœurs, malgré le danger.
Très bien.
C'est, ça a l'air très, très, très sympathique également. Voilà,
eh
voilà
bien,
pour
voilà,
moi.
Voilà, voilà, voilà. Cinescence, c'est fini.
Oh ben
pour
non,
aujourd'hui.
Je viens d'arriver.
Ben oui. Vous allez pouvoir retourner à vos occupations préférées, vous balader, chanter, rire, voyager, bref, rire. Moi, je m'en vais fêter mon anniversaire.
Happy birthday.
Mais vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres en podcast sur le site d'Eau de Radio. On se retrouvera en direct, si vous le voulez bien, mardi prochain à 14h. Nous ferons un petit tour dans une année précise avec notre nouvelle formule cette année-là.
Cette année-là. Et ce sera bien sûr sur Eau de Radio 91.3, bien entendu.
Mais on ne se quitte pas tout de suite, car avant, nous allons écouter la chanson Perle du jour.
Alors, nous remercions Jean-Jacques qui, bien sûr, n'est pas là. N'est-ce
Parfait,
pas,
vous allez adorer.
C'est lui qui découvre ses pépites. C'est une chanson qui peut être classée dans la catégorie promotion des produits régionaux. En 1933, Germaine Lix chantait « Quand j'ai bu mon petit coup de Bordeaux », à consommer avec modération, bien entendu.
Allez, à mardi prochain et en attendant,
bon vent à tous.
Joyeux anniversaire.
subboniment. Il y en a d'autres qui sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas d'argent. Moi je peux le dire devant tout le monde, il y a une chose qui guérit mes maux et fait que je deviens plus gironde, c'est un tout petit coup de Bordeaux. Quand j'ai bu mon petit coup de Bordeaux, tout ce que je vois devient plus beau. Je me sens revivre, sûr j'en boirai pas un tonneau, mais un petit coup c'est jamais trop, ça me délivre. Je crains pas les soucis, les bateaux, ni ceux qui me tendent des panneaux, voulant me suivre. J'ai resté une femme comme il le faut. Mon petit coup de Bordeaux, ça me fait rire quand on discute autour de moi à l'apéro. C'est toujours comme ça que ça débute, capitaliste et le socialo. Moi j'ai horreur de la dispute, mais si je trouve qu'on cause un peu trop, je bois un petit coup et dans la lutte, je rentre à fond car je sais dire mon mot. Quand j'ai bu mon petit coup de Bordeaux, je me mets facilement au niveau de la politique. Je peux critiquer les radicaux, la droite, la gauche ou les centraux, la République. Pour le Parlement, c'est travaux. J'ai des arguments tous nouveaux, catégoriques. Car je sais parler comme il faut quand j'ai bu mon petit coup de Bordeaux. Je vais vous faire une confidence pour ce qui est des choses de l'âme. J'ai mes manies et mes exigences, et sans me croire la pompe à nous, pour aider un petit peu la chance dans le plus galant des discours et satisfaire mes préférences, je trinque avec mon troubadour. Quand j'ai bu mon petit coup de Bordeaux, j'ai l'esprit comme un étourneau, je vise un rêve, j'oublie tout, et dans mon cerveau, l'amour m'est un plaisir nouveau, que rien n'enlève, tout brille et me semble plus beau, mes nerfs courent au long de ma peau, qui se soulève.